Ménager, plus 1200 bras, rapport salaire français, 1 sur 23.
À vendre, stock bébé pour parents stériles, provenance tiers-monde, volé à famille en exil. Certificat médical, choix conséquent, garantie 2 ans, aucune facilité de paiement.
Société offshore, Luxembourg Nord, propose gestion tout confort, transfert blanchiment argent sale, parfait idéal pour campagne électorale.
À vendre, uranium appauvri, prêt pour traitement, fourni avec plan bombe A, montant à débattre, premier prix 100 millions, remise 10% sur équipement de fonction.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Vous êtes bien sur les ondes de Radio Canu au 102.2 modélation de fréquence. Et en stéréo, on vient d'entendre Mouloudji avec le morceau qui s'appelle Frère Misère. Enchaîné du groupe hip-hop La Rumeur avec les petites annonces du carnage. Et on enchaîne avec Original Clash. Écoutez ça, c'est terrible. Jenny Jones version instrumentale. Wicked!
Take one, where
are
you going? Jenny Jones, take one. Here we go.
Oh, nous dit « Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. » Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir, il est 19h07 et vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info.
Et on commence tout de suite avec les titres à l'international, et on vous parlera dans un premier temps de l'Europe forteresse et du pouvoir grec qui veut installer un mur marin autour de l'île de Lesbos. Ensuite, on enchaînera sur la grève du secteur pétrolier au Brésil, et on finira avec une petite chanson pour passer au national.
Pour l'actualité nationale, on fera un petit point sur le mouvement de grève. On parlera aussi des dissensions qui existent au sein de la CGT. Aussi d'un gros scandale au sein de la CGT Ville de Paris autour d'affaires de violences sexuelles. Puis on ira du côté de Bordeaux pour parler de la répression des gilets jaunes.
Oui, et donc on enchaîne, je ne savais pas que c'était à moi de faire la suite, pas de souci, sur la censure de Soumaya au Grand Rex, l'intrusion et les dégradations au siège de BlackRock, une lettre lycéenne publique, et on finira donc sur une musique au national, du Go TSR. Au local,
on parlera d'une belle proposition d'Étienne Blanc.
Et on finira avec une interview d'une camarade, membre de l'espace communal de la Guillotière.
Et on commence tout de suite avec donc l'Europe forteresse. Et oui, coup de com' démagogique ou nouveau dispositif de la forteresse Europe. C'est ce qu'on est en droit de se demander devant la nouvelle annonce du gouvernement de droite conservateur grec. Installer un mur marin en filet pour empêcher les migrants d'arriver sur ses côtes, en particulier autour de l'île de Lesbos, qui est située à proximité des côtes turques et qui est un point d'entrée privilégié des exilés en Europe dans la zone. Alors, une barrière qui s'étendrait sur 27 km autour de l'île, elle serait soutenue par des pylônes qui s'élèveraient à une cinquantaine de mètres au-dessus de l'eau. Équipée d'une signalisation lumineuse, elle pourrait dissuader les réfugiés de se rendre à Lesbos, d'après le pouvoir. C'est du moins ce que cherche en tout cas le ministre de l'Intérieur, Nikos Panagiotopoulos. Excusez mon accent. Et de telles barrières s'élevant au-dessus donc du niveau de la mer, elles pourraient rendre assez difficile le passage des petits bateaux qui transportent les exilés et pourraient poser un problème aussi pour tous les navires à hélice. Alors, si l'opposition et les ONG, elles, dénoncent l'idée comme stupide et inefficace, le pouvoir réactionnaire installé aujourd'hui en Grèce semble bien décidé à rendre encore plus inaccessibles et dangereuses les frontières de l'Europe. Un bon moyen de jouer électoralement sur les thèmes xénophobes et racistes, et ainsi faire oublier que ce gouvernement s'emploie désormais à appliquer les directives antisociales de la Troïka. Alors, l'île de Lesbos et est devenu aujourd'hui un des principaux piliers de l'Europe forteresse avec la bénédiction de l'Union européenne et de Frontex, donc qui est l'agence chargée de la surveillance des frontières européennes. Alors l'île, elle s'est transformée en un véritable camp de concentration. Les exilés sont parqués dans plusieurs camps surpeuplés ou restent confinés sans jamais voir le continent, dans l'attente inespérée de voir leur demande d'asile aboutir dans un pays européen. Ainsi, le camp de Moria, le plus grand de l'île, prévu initialement pour 3000 personnes, accueille désormais plus de 20 000 personnes, abritées tant bien que mal sous des tentes qui grignotent les champs d'oliviers environnants. Une de nombreuses parties ne sont plus approvisionnées en eau et en électricité, et il faut faire aussi des heures la queue pour pouvoir manger. Et du coup, face à ces conditions déplorables d'accueil, le cas de personnes, dont des enfants, refusant de manger ou de parler, donc c'est-à-dire en fait des gens qui développent des troubles psychiques, sont de plus en plus nombreux. C'est la fameuse stratégie de la misère, hein, qui a été développée aux States face aux exilés latinos. Elle consiste à rendre les conditions de vie des individus encore plus infernales que ce qu'elles pouvaient être dans leur pays d'origine pour les pousser à y rester. Donc un moyen de dissuader ceux qui voudraient venir. Alors les tensions sont à leur comble sur l'île. Il y a eu une manif d'exilés violemment réprimée lundi dernier par la police et qui a viré à l'émeute. Et le lendemain, donc mardi dernier, il y a eu une manifestation de Grecs locaux au relent raciste qui a aussi viré en partie à la ratonnade avec des chasses d'exilés sur l'île. Voilà, donc la situation devient vraiment inquiétante et il est sûr que les barrières marines vont encore aggraver les choses. La domination impérialiste des pays occidentaux sur des pays du Sud reste toujours aussi forte et son émanation concrète en la forme de l'Europe forteresse se renforce toujours plus, brisant toujours plus de vies humaines avec elle.
On va du côté du Brésil où le secteur du pétrole s'est mis en grève.
Ouais, alors au Brésil, vous le savez forcément un peu, hein, c'est Jair Bolsonaro qui est au pouvoir, gros facho, notoire, ultralibéral. Entre autres, hein, il est nostalgique de la dictature militaire d'extrême droite de 64 à 85 au Brésil. Il est homophobe, raciste, misogyne, inféodé à la bourgeoisie la plus libérale et autoritaire qui soit, qui n'a pas hésité, par exemple, à brûler l'Amazonie dès son entrée au pouvoir l'année dernière, hein, avec un plus 83% de feu entre janvier et août 2019, au mépris bien sûr de l'environnement et des droits des peuples autochtones et des paysans sans terre. Tout ça, bien sûr, en lien et soutenu par les multinationales impérialistes et occidentales en premier lieu. En résumé, un gars bien, quoi. Alors, sur le plan économique intérieur, il applique de manière zélée les volontés du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale avec ses politiques d'austérité, ses privatisations et licenciements de masse. Mais, car il y a un mais, c'est sans compter sur la résistance ouvrière et la solidarité de classe. Les travailleurs et travailleuses du secteur pétrolier sont par exemple en grève reconductible contre toutes les privatisations et les licenciements qui leur sont imposés. Depuis le 1er février, a débuté une grève illimitée dans tout le secteur pétrolier contre la fermeture de l'entreprise Fafen. Alors je vous passe le nom en brésilien pour ne pas me ridiculiser. L'entreprise Fafen, c'est une filiale du géant brésilien Petrobras dans le sud du pays, qui va donc priver de travail 1000 salariés sur l'ensemble du territoire, dont des travailleurs qui sont embauchés directement par l'entreprise et des travailleurs précaires. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle ? D'une part, parce que parler des grèves de par le monde, c'est toujours bien, mais aussi et surtout, car l'une des caractéristiques de cette grève, c'est la solidarité ouvrière. C'est bien l'ensemble du secteur pétrolier à l'échelle nationale, donc avec un poids social très important, qui s'est mis en grève pour refuser le licenciement de leurs collègues à des centaines voire des milliers de kilomètres les uns les autres, et en remettant en cause la division entre les salariés directement embauchés par l'entreprise et les travailleurs précaires. Mais surtout, cette solidarité de classe déborde largement le cadre de l'entreprise, puisque dans plusieurs villes du pays, de manière assez massive, les grévistes ont décidé d'organiser des ventes de bouteilles de gaz à des prix populaires et de livrer des bons de réduction d'essence. Action très très populaire au Brésil, puisque au Brésil, donc le Brésil qui produit du gaz et du pétrole, eh bien les prix des consommateurs sont souvent beaucoup plus élevé que pour ceux des pays riches qui n'en produisent pas ou peu du pétrole ou du gaz. Par exemple, de juin 2018 à juin 2019, le prix du gaz a fait plus 30%. Depuis octobre 2019, il y a déjà eu 3 hausses successives, dont la dernière, plus 5%. Sachant que ces augmentations successives et ces privatisations avaient déjà commencé, évidemment, sous le gouvernement du parti travailliste de Lula et de Dilma Rousseff. Donc ce n'est qu'une simple continuité des politiques antérieures, mais qui s'accentue. Voilà pourquoi la grève et pourquoi cette solidarité de classe.
Et avant de passer, pardon, l'actualité nationale, on va écouter Comme un couteau dans la plaie de Kazeï.
Et non, car j'ai oublié de faire ça.
La crapule et je rappelle que je manipule ma plume comme un scalpel et que mon nom s'épelle dans ces rues principales où même la police municipale interpelle et que c'est sans scrupule que cette métropole souhaite que le visage pâle garde le monopole, soit la norme locale, recale à l'appel les peules et les peaux des tropicales archipels et j'ai fait le calcul et oui on nous encule avec protocole pour col blanc à particules absent des grandes écoles, de leurs pellicules on bricole des projectiles et brûle leurs véhicules, et non séquelles sont telles quelles, depuis ces radicales déportations faites à fond de cale, je sais, je récapitule le même récital, mais avec ce style né au nord de la capitale. Comme un couteau dans la plaie, j'adore le complot, et puis mes couplets parlent de conflits, et quand j'accomplis chaque jour un plan plus sanglant, bah ça me plaît. Comme un couteau dans la plaie, j'adore le complot et puis mes couplets parlent de conflits et quand j'accomplis chaque jour un plan plus sanglant, bah ça me plaît. Ma rengaine, c'est le dégoût que je dégaine et note qu'aucune fortune n'achète ma rancune. Je garde mon jerrycan d'essence, ma sarbacane. En conséquence, cette douce délinquance, si on nous canne en terre républicaine, tire à la lucarne sur les icônes qui braconnent la matière africaine. Attaque quand on me taquine et prône les boulettes canon comme les pamphlets fanon que je bouquine. Et ça t'étonne, mais regarde ma routine. Je piétine dans ces tours lointaines en quarantaine. Chantonne avec butane et tonnes de chevrotine pour mes frères insurgés qu'on condamne par centaines. Amène la baramine et puis la carabine. J'ai cette rime urbaine qui rumine au bout de ma mine. Ordonne à mes hormones, laisse dans mes organes cette épaisse violence efficace du hooligan. Ha. Comme un couteau dans la plaie, j'adore le complot et puis mes couplets parle de conflit et quand j'accomplis chaque jour un plan plus sanglant, bah ça me plaît. Comme un couteau dans la plaie, j'adore le complot et puis mes couplets parle de conflit et quand j'accomplis chaque jour un plan plus sanglant, bah ça me plaît. Comme un couteau dans la plaie, j'adore le complot et puis mes couplets parle de conflit et quand j'accomplis chaque jour un plan plus sanglant, bah ça me plaît. Comme un couteau dans la plaie, j'adore le complot et puis mes couplets parle de conflit et quand j'accomplis chaque jour un plan plus sanglant, bah ça me plaît.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est toujours le Canu Info du lundi et on passe au national avec un point sur le mouvement de grève.
Oui, vous n'êtes pas sans le savoir, le mouvement des retraites dure maintenant depuis 68 jours. Bon, là, on a affaire quand même à un des mouvements sociaux les plus longs et denses auxquels on a été confronté et surtout auxquels a été confronté le gouvernement depuis des décennies. Un mouvement aussi qui est mouvant, qui se reconfigure tour à tour en fonction des secteurs clés qui rentrent dans la lutte au gré des forces disponibles. Contre la stratégie du pourrissement, on a ici les différents métiers qui rentrent peu à peu dans le jeu selon une sorte de système de roulement ou de relais plus ou moins coordonné. Et qui fait effectivement que quand un des secteurs se met un peu en retrait pour renouveler ses forces, un autre rentre dans la partie. Alors pour faire un petit point secteur par secteur de ce qui se passe en ce moment et de ce qui est annoncé. Après un moment de pause, la RATP revient ici en force. On a une sorte de retour à la source, hein, un effet de cycle avec un nouvel appel unitaire à la grève de la part donc de la RATP. Pour rappel, hein, ça fait quand même 46 jours d'arrêt de travail qui ont été tenus entre le 5 décembre et le 20 janvier. Aussi une répression forte qui s'est abattue sur la RATP, hein, surtout une répression matinale pendant les moments de blocage de dépôt. Mais tout ça, ça n'a donc pas suffi à faire taire les salariés qui appellent un lundi noir le 17 février. 17 février, on le rappelle, jour du début de l'examen du projet en séance à l'Assemblée nationale. Bon, par rapport à cet appel unitaire, seule la CGT-RATP, pour l'instant, n'a pas rejoint l'appel. On y reviendra. Du point de vue des avocats, dans les tribunaux, pareil, la grève continue depuis 5 semaines maintenant contre la suppression, là, en particulier des régimes spéciaux. Et malgré surtout les dernières propositions du gouvernement qui essaie de négocier hein, secteur par secteur pour éviter l'ampleur de la lutte, et bien malgré les propositions faites par le gouvernement en fin de semaine, l'AG des conseils nationaux des barreaux vote la poursuite de la grève. On va donc continuer à perturber le fonctionnement de la justice en s'opposant aussi directement à la position du parquet qui est celle de essayer d'empêcher à chaque fois le renvoi des dossiers, mais sans grand succès. Dans les centrales nucléaires, ça bouge et ça s'annonce de plus en plus dur. Dans les 19 centrales nucléaires réfléchissent en ce moment à radicaliser leur mouvement au-delà des dates de mobilisation interprofessionnelle. Bon, ils avaient déjà mis en place une pluralité d'actions hein, qui étaient plus ou moins aussi débattues. Coupure de courant ciblée, faire passer des clients en heure creuse, remettre le courant chez ceux qui galèrent et chez qui ça a été coupé, pendant la, etc., etc. Et là, on réfléchit carrément à couper la production et la totalité de certaines centrales. Les grévistes dans le nucléaire, ils défendent leur statut sur celui qui a un statut spécial de IEG, Industrie Électrique et Gazière, statut qui leur permettait de partir à la retraite à 57 ans en compensation d'un travail effectué par roulement jour et nuit et en échange de cotisations sociales très élevées qui correspondent à plus de 40% du salaire. Et ce projet-là de radicalisation de leur lutte, de leur grève, c'est aussi dans un contexte très particulier qui est celui de la privatisation accélérée d'EDF, donc qui pousse donc au durcissement de leur position avec l'annonce du projet Hercule qui va couper EDF en deux avec d'un côté la production nucléaire et de l'autre toutes les autres activités. Du côté des hôpitaux, l'ensemble du personnel médical et hospitalier, en partie aussi mené par les aides-soignants, appelle et annonce une grève à partir du 14 février. À Paname, même si le préfet a signé un arrêté de réquisition le 31 janvier en réponse donc à la grève conjointe des éboueurs et des salariés dans les centres de traitement des déchets d'Île-de-France, et ben malgré cela, les grévistes continuent de s'organiser. Par exemple, au centre de Saint-Ouen, l'usine est toujours à l'arrêt, ça fait plus de 2 semaines. Il faut dire quand même qu'en temps normal, l'usine, quotidiennement, elle traite 1800 tonnes de déchets, donc ça s'amoncelle à Paris, et on le voit d'ailleurs sur les photos qui circulent. Enfin, avec l'annonce de la loi de programmation de la recherche, les enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants, à l'issue d'AG qui sont tenus un peu dans toutes les facs, prévoient une grève reconductible à partir du 12 mars, donc c'est dans longtemps. Ils luttent à la fois contre la réforme des retraites et contre le renforcement du financement de la recherche par projet, contre l'arrivée aussi de nouvelles formes de contrats de travail qui sont annoncés, qui ressemblent complètement à ce qui se passe aux États-Unis. Et donc même si cette mobilisation est tardive, on espère surtout qu'elle va relancer un mouvement étudiant fort qui s'était quand même timidement installé en novembre contre la précarisation des conditions de vie.
Et oui, malgré ces secteurs encore bien mobilisés et la volonté de la base, l'intersyndicale répond par le retour à un calendrier de mobilisation, qui pue la défaite. Alors la prochaine journée d'action à laquelle ce conglomérat de socio-traîtres appelle est donc le 20 février. Alors si la mobilisation s'essouffle, hein, c'est bien la conséquence du défaitisme et des compromissions des dirigeants syndicaux, pas de la détermination des grévistes qui, à la blase, réclament toujours l'extension du mouvement. Dans les villes, dans les boîtes, les bahuts, les universités, des AG de base se constituent pour répondre à une bureaucratie qui n'écoute que sa propre peur d'un renversement définitif. Alors on se réjouit bien sûr de ces initiatives qui, on l'espère, pourront mettre à mal cette stratégie de la défaite. Ce week-end, par exemple, se tenait à Paris une coordination nationale interprofessionnelle à laquelle ont répondu des assemblées générales de toute la région parisienne, mais aussi de plusieurs villes en France, notamment Grenoble, Montpellier, Nancy, Rennes, Rouen ou encore des camarades de l'Aube. De nombreux secteurs y étaient représentés, la santé, les travailleurs sociaux, des étudiants, des gilets jaunes, des enseignants, des territoriaux, le BTP, des postiers, entre autres choses. Donc cette coordination, elle appelle à déborder le calendrier de l'intersyndicale en proposant d'ores et déjà la date du 17 février, premier jour du débat parlementaire. Donc, le communiqué invite également à rejoindre tous les appels sectoriels, donc celui du 14 février pour la santé, du 22 pour le BTP, du 5 mars pour l'enseignement supérieur, du 8 mars pour les droits des femmes, hein, qui sont particulièrement attaquées par cette réforme. La coordination appelle également une semaine noire de grève à partir du 16 mars. Et pour info et ceux que ça intéresserait, puisqu'il y a aussi une AG qui commence à prendre un peu forme à Lyon, la prochaine cohorte est prévue le 23 février à Paris. Donc dans la même dynamique et face à des prises de position honteuses de certaines UD ou même de la Confédération, hein, notamment autour de supposés manifestants violents, des sections affichent leur volonté d'unité dans le mouvement et à la base. On pense par exemple à Philippe Martinez, hein, qui est toujours plus prompt à soutenir Laurent Berger que les grévistes, hein, qui avait ainsi déclaré après l'envahissement des locaux de la CFDT le 20 janvier dernier, je cite, « Aujourd'hui, le siège de la CFDT a été envahi par des personnes se réclamant d'un collectif de grévistes, de cheminots et d'agents de la RATP. Quels que soient les désaccords possibles entre organisations syndicales, la CGT ne cautionne pas ce type d'action. » Alors, c'est sympa pour tous les grévistes qui n'ont pas de salaire depuis plus de 2 mois de la traiter de soi-disant collectif de grévistes. Dans la même veine, l'UDCGT du Nord avait signé un communiqué avec d'autres syndicats dénonçant les violences des manifestants. Donc l'UL de Tourcoing, on la salue, a courageusement répondu par l'unité à la base et dans l'action. Donc la bureaucratie de la CGT, par ses prises de position insupportables et par son défaitisme, ne cesse de se mettre à dos sa propre base, celle qui est dans la rue depuis le 5 décembre, qui s'épuise sur les piquets tous les matins et grève depuis plus de 2 mois. Notre camp est définitivement celui de la lutte, pas celui des salons parisiens. Débordons les bureaucrates et à la grève.
Bon, et voilà, on va continuer encore sur du CGT bashing, hein, désolé, mais franchement...
Non, pas désolé.
Franchement, non, mais ils l'ont cherché. Hein. Bon, coup de tonnerre donc, au sein de la Fédération CGT des services publics à Paris, 498 militants se sont vus privés de leurs droits syndicaux, donc c'est-à-dire de leurs heures de délégation. Donc une interdiction pure et simple de militer sur leur temps de travail et donc de remplir leur rôle de délégué syndical. Alors cette décision arbitraire a été prise par la fédération CGT du secteur elle-même. Mais enfin, on peut se demander du coup au premier abord, pourquoi cette décision ? Eh bien, elle résulte de profonds désaccords politiques en interne, notamment autour d'une affaire de violence sexiste et sexuelle. Alors pour vous faire un tableau assez simple, parce que c'est un peu compliqué, c'est un sacré foutoir quand même, la CGT Paris, et ben elle regroupe, la CGT Paris donc c'est en fait une multitude de petits syndicats qui représentent différentes professions, et faire tenir le tout ensemble donc n'est pas très évident. Hein, récemment il y avait eu une scission, enfin... En 2017, il y avait une scission avec une partie des syndicats qui était allée former un comité autonome. Et aujourd'hui, pour des raisons techniques que je vous épargnerai ici, ce comité tient tous les droits sur les heures de délégation des autres. Ainsi, il a pu imposer cette décision arbitraire qui, selon plusieurs syndiqués qui appartiennent pas à ce comité et qui ont été victimes, donc, ressemble à une forme de purge. Sont particulièrement ciblées les femmes membres du comité dit femmes mixité, qui dénoncent officiellement auprès de toutes les instances dirigeantes de la CGT des agressions verbales sexistes et sexuelles répétées, ainsi qu'une agression physique contre l'une d'entre elles le 2 décembre 2016. Un homme est mis en cause, Régis Vicelli, secrétaire général du syndicat du nettoiement de la capitale. Son syndicat est l'un des 7 ayant quitté l'union syndicale en 2017 et qui est désormais donc partie prenante du nouveau comité. Alors pour le moment, l'homme dispose d'une totale impunité au sein du syndicat, le comble étant même que seul son employeur l'a sanctionné pour le moment avec un blâme. Alors, il a même pu se présenter à la commission exécutive de l'Union départementale de Paris contre l'avis de la commission des candidatures. Alors cette répression, la répression du coup qui se déploie contre les femmes qui dénoncent les actes de ce bureaucrate syndical, elle est symptomatique des pratiques autoritaires dans certaines fédérations. On y trouve en quelque sorte les relents du stalinisme d'autrefois et d'une conception dogmatique de la lutte des classes. Une vision viriliste, verticale et autoritaire du combat syndical qui se paie le luxe en plus, comme on l'a vu avant, d'être fermé au mode d'action sortant des classiques grèves et manifs plan-plan. Alors cette affaire, elle peut être mise aussi en parallèle, alors là on va faire un peu d'histoire, avec une affaire similaire qui avait eu lieu à Lyon au début des années 80. En 1981, Georgette Vacher, responsable du secteur femmes dans le Rhône depuis 1975, se suicide après qu'on lui ait retiré ses responsabilités syndicales. L'année suivante, l'UD du Rhône licencie les rédactrices du journal militant auquel elle participait et cherche à, donc un journal féministe, et cherche à reprendre en main la problématique féminine dans l'organisation face aux orientations choisies par les premières concernées. Alors, il est aberrant de voir que, comme durant les années 70-80 et aujourd'hui encore, enfin que comme à l'époque, aujourd'hui encore, une forme de stalinisme bureaucratique subsiste dans la CGT et qu'une pratique viriliste de la lutte prive le mouvement ouvrier de certaines de ses membres légitimes et de leurs luttes spécifiques. Alors espérons que la fronde dont on parlait avant, de certaines syndiquées et syndiqués de base, va pousser la CGT à se transformer dans un sens plus révolutionnaire et féministe.
Et pas qu'à Paris.
On enchaîne à Bordeaux, donc, puisque peut-être le savez-vous, eh bien, il y a eu une très forte répression à Bordeaux contre les Gilets jaunes. Puisque les Gilets jaunes, le samedi, eh bien non, ce n'est pas fini partout. Hein. Même à Lyon, samedi, là, il y a eu des manifestants. Mais là, à Bordeaux, il y avait une manifestation nationale, en tout cas un appel national à aller à Bordeaux. Donc, il y avait, selon les forces de l'ordre et la préfecture, 800 personnes. Donc, on peut penser, imaginer qu'il y avait largement plus de 1000 personnes. L'hypercentre était totalement interdit, quadrillé par des dispositifs de flics assez conséquents qui ont dès le début attaqué le cortège. Il y avait la présence d'un hélicoptère, d'un canon à eau. Bon, ça, nous, à Lyon, on est relativement habitués, mais bon, visiblement, à Bordeaux, c'est pas systématique. Et un nombre impressionnant de flics qui ont interpellé 30 personnes dans cette manifestation, toutes placées en garde à vue. Au moins 2 personnes ont fini à l'hôpital dans les manifestants, mais beaucoup plus ont été blessés. Il y a eu pas mal d'affrontements, des nasses, ce qui a fait que les manifestants se sont retrouvés très vite donc enfermés, attaqués très facilement par les forces de l'ordre. Parmi les 30 gardés à vue, une interpellation a fait polémique puisqu'elle était filmée donc sur les réseaux sociaux. On voit un homme devant la gare, rangé contre le mur avec pas mal d'autres personnes, qui ne fait rien, qui se prend une énorme balayette par un baqueux, puis il est interpellé et se fait molester au passage avant d'être emmené donc en garde à vue. Pour Patrick Ménès, donc le directeur départemental de la sécurité publique, c'est le numéro 2 de la préfecture, ils lui ont fait une balayette pour le faire tomber. Jusque-là, on avait compris. Puis, ils l'ont emmené. Là aussi, on avait compris. Cela peut choquer ceux qui sont autour.
Enfin, analyste, ce
Patrick Ménès. Attention, c'est toujours intéressant. Un DDSP est toujours intelligent. Cela peut choquer ceux qui sont autour, mais j'espère qu'ils sont aussi choqués s'ils savent que ce jeune homme a jeté des pavés sur les policiers. Alors, c'est vrai qu'entre les keufs surprotégés qui se prennent un pauvre caletard, soit dit en passant, légitime pour la plupart du temps, sur le casque ou dans le bouclier, et un mec non protégé qui fait absolument rien, qui se fait laminer par un keuf, notre cœur balance ou pas.
Et on va du côté de Paris, je crois, ce matin, une action.
Action coup de poing ce matin à Paris, au siège de BlackRock. Bah, déjà, début janvier, on se rappelle, hein, le siège de BlackRock avait été pris pour cible par des salariés en grève de la SNCF et de la RATP, qui l'avaient envahi. Et ce matin, rebelote, mais cette fois-ci par une centaine de militants écologistes qui ont occupé le siège parisien, donc du gestionnaire d'actifs BlackBlock, en vandalisant une partie des locaux. Alors BlackBlock, c'est quoi? C'est quand même une multinationale, hein, la plus puissante en termes de gestionnaire d'actions, qui capitalise et fait tout pour optimiser un maximum ses capitaux. À l'appel de l'organisation donc Youth for Climate Paris, cette action a été menée à terme pendant 3 heures, mais aussi bien sûr rejoint par un nombre de soutiens importants, en partie des obéissances Écolo Paris, Cerveau non disponible ou encore les Gilets jaunes Place des Fêtes. Donc tout ça, ça a fait une centaine de manifestants qui ont pénétré dans le bâtiment, le Centauria, l'espèce d'énorme tour qui abrite les bureaux du siège au plein milieu de Paris. Sauf que la répression a été très féroce. 17 personnes, dont 4 mineurs, ont été interpellées ce matin pour participation à une manifestation non déclarée, dégradation et violence volontaire, etc., etc. Si on regarde sur les vidéos, on voit que quand même, ça a été un peu chamboulé l'intérieur, ça a été tagué un peu de partout, le mobilier a été utilisé comme barricade à l'entrée, etc. Dans un communiqué un peu officiel, du coup, BlackRock est attaqué à 2 titres. Hein, d'abord par son rôle joué dans la réforme des retraites et aussi à cause de ses investissements écocides. Par exemple, BlackRock investit massivement dans Vinci, dans Total, dans PNB Paribas qui investit dans le charbon, dans la Société Générale qui finance des infrastructures d'exportation du gaz de schiste, etc., etc. Bref, une action qui continue à mettre la pression dans ce mouvement contre les retraites.
Et maintenant, on va vous parler. Alors, je vais vous lire une lettre que vous avez peut-être déjà vue passer sur les réseaux sociaux. Hein. C'est une lettre de détresse d'une lycéenne. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle explique avec des mots assez simples l'état d'esprit des lycéens et pourquoi ils se mobilisent. Et surtout les conséquences donc, des E3C, ce qui rappelle assez d'ailleurs, vous allez le voir, les thématiques et les problématiques soulevées par la tentative de suicide de notre camarade il y a quelques mois, notre camarade étudiant il y a quelques mois. Je suis en première générale au lycée Pape Clément. J'ai 16 ans, des parents aimants, des amis fidèles et pourtant, que mon quotidien est violent, que de larmes versées pour une même cause, l'école. J'ai toujours été une bonne élève, pas excellente, mais sans difficulté. Mais cette année, c'est différent, l'école ne m'aime pas. On me parle de bienveillance, mais est-ce vraiment de la bienveillance en spécialité, physique-chimie, de nous faire étudier un chapitre par semaine de peur de ne pas terminer le programme et de ne pas avoir le temps de faire assez d'exercices. Puis de faire un contrôle où nous sommes devant un mur, car les connaissances n'ont pas été assez consolidées, de passer donc d'une moyenne de 14 en seconde à 7 en première. J'ai l'impression de passer ma vie à travailler, mais ça ne suffit pas. Est-ce vraiment de la bienveillance d'être dans l'ignorance des épreuves qui vont nous être proposées très prochainement? Est-ce vraiment de la bienveillance d'avoir devant nous des profs qui ne connaissent pas totalement le contenu des épreuves, des profs qui ne sont donc pas toujours capables de répondre à nos questions, des profs stressés et fatigués? Est-ce vraiment de la bienveillance de n'avoir jamais les mêmes camarades de classe? Nous avons 4 classes différentes avec très peu d'heures dans chacune d'elles. Il est donc difficile de lier des liens de confiance et de solidarité. Il n'y a aucune cohésion et aucune aide entre nous. Chacun se retrouve seul face à ses difficultés. Il est aussi très difficile de retrouver ses amis pendant les pauses de midi puisque tous nos emplois du temps sont différents et notre temps de repas très court ne nous permet pas de nous attendre. Ah mais oui, pardonnez-moi, nous ne sommes pas là pour nous aimer, pour faire de nouvelles connaissances, nous sommes là pour travailler. Malgré tout, il est très dur d'avancer seul sans soutien. Nous sommes donc des pions dans un jeu où les règles ne sont pas claires. Plus personne ne porte notre parole puisqu'il n'y a pas de délégués dans les classes de spécialité. On remarque aussi qu'à cause du rythme plus que soutenu dans les spécialités scientifiques, une majorité d'élèves a des cours particuliers. Faut-il être riche pour réussir ? J'ai toujours adoré les maths et j'ai toujours eu de bonnes notes et aujourd'hui, le ciel me tombe sur la tête. Je me pensais bonne, mais les notes cette année me montrent que je suis nulle. Je me sens terriblement mal à l'école car le rythme est trop soutenu. On nous met trop de pression, on ne sait pas ce qui nous attend et on a l'impression qu'on nous lâche sans avoir les cartes en main pour réussir. Les E3C nous font très peur car les profs déplorent la difficulté des épreuves que nous allons avoir. Ne nous sentent pas prêts et ne nous trouvent pas bienveillants de nous conduire à l'échec. Mes parents m'ont toujours dit de profiter car les années lycées seraient les plus belles de ma vie. Mais j'espère que ce sont les pires, sinon si la vie est faite autant de violence, ça doit être vraiment triste d'être un adulte. On m'a toujours appris que l'école était là pour m'aider à me construire, mais je crois qu'elle est en train de me détruire. Une élève de première en détresse, colère.
On enchaîne donc avec la censure de Soumaya au Grand Rex.
Oui, alors que Sibeth Ndiaye annonçait hier un plan contre le séparatisme dans la République, hein, au relent comme toujours bien islamophobe, le cinéma Le Grand Rex annonçait quant à lui l'annulation de la projection de Soumaya, un film dénonçant précisément l'islamophobie. Alors ce film de Waïd Khan et Oubaïdia Abou Saïd raconte l'histoire d'une femme musulmane qui était cadre dans une société de transport et qui a été licenciée suite au délire sécuritaire et islamophobe de l'état d'urgence. Cette fiction inspirée d'une histoire vraie n'est pas du tout du goût de la fachosphère qui s'est donc lancée, notamment sur les réseaux sociaux, dans une grande entreprise de dénigrement et de sabotage. À cette campagne islamophobe, la direction du Grand Rex, hein, n'écoutant que son courage, a répondu positivement en annulant cette avant-première sous de fallacieux prétextes. Alors, les grands amoureux du cinéma et pourfendeurs de la liberté d'expression qui défendaient becs et ongles le J'accuse de Roman Polanski sont aujourd'hui bien muets. Entre islamophobie et féminisme, ils ont visiblement déjà bien choisi leur camp et ce n'est pas le nôtre.
On enchaîne donc avec une musique, une chanson d'Hugo TSR, Couleur miroir.
Décide-toi, un mouvement de doigt peut faire un drame. Méfie-toi et si le diable a l'air sympa, à faire un tac, je suis pas du genre à faire un pack. Même si je m'endors sous café noir et que je me réveille avec un flash. Juge-moi à tort et tout s'acquiesce sans être vraiment d'accord. Le plafond pour album, les suicidaires jouent de l'instrument à cordes. Un flow subtil sale mémo tête, ont l'air honnête. Remballe ton fric et tes hôtesses, incorruptibles comme Elliot Ness, des saprates. C'est Crocodile Dundee pour faire un bout de prout. J'ai aucun goût, j'pourrais mettre une chapka avec un boubou, le pouce levé. Au bord de la route et sur la scène, instrumentale, une vie facile si tu la dragues, t'es sur de la ken. Aujourd'hui, elle et moi, on a pris rendez-vous, pas besoin de vivre à la campagne pour se réveiller avec le chant des poules, ambiance à chiche. Pas plus honnête, celui qui vend de la tease. Vive le vent, vive le vent, vive le vandalisme. C'est la guerre, sky dans le biberon, pilon de purple. Nous sommes trop petits, chaussures trop grandes, j'ai la dégaine d'un monster truck. Tout ça crampe, boulevard rectiligne, coma éthylique. Chaque fois qu'on cherche la chance, on se trompe d'adresse comme Alice Ziggy. Une ville grise, malgré son phare, malgré ses vitrines. L'air si triste, de Montrouge à Boboche, de Garges à Vitry. La douche et la coupe, j'emmerde les deux, j'ai l'air dégueu. Le regard vers les cieux, j'ai plein des Dragon Ball pour faire mes vœux. Je m'interroge, cerveau accidenté comme la fête des loges. Platimenté, y'a que ça pour voyager à part cette éloge. Qui raconte que de la merde avec des airs hyper sérieux. Dans ce monde nerveux, un bon barman, ça rapporte moins qu'une belle serveuse. Couleur miroir. Tout est dit, je suis un modèle ni pour les grands ni pour les petits. Jour et nuit, je me fais plaisir sur tous mes titres. Couleur miroir, tout est dit. Malgré le tarot, paraît que je les mets tous KO. Quand je monte sur scène, tout le monde crie Netsukao. On casse des barres, des rimes rapides, vitesse guépard. Même si l'écart des keufs défile, façon les chars de la guépraille. Rue avariée, que je finisse bien, ce sera dur à parier. Mon frigidaire fait le ramadan, mais se remplit pas quand la lune apparaît. Quand sur les mains, il faut le mental d'un jour allié. Des murs, des trains, toutes les postes, et quand on rentre un gros voilier. Ça se pétale comme à la foire du trône. Tu bois, tu vois plus trop quand l'avenir tourne le dos. Ici, il en faut peu pour se détruire cet hiver. J'ai vu la neige sur les affiches du trône. Cet été, j'ai vu des tournesols sur des bouteilles d'huile. Couleur miroir, tout est dit. Je suis un modèle ni pour les grands ni pour les petits. Jour et nuit, je me fais plaisir sur tous mes titres. Couleur miroir, tout est dit. En direct du wagon bar, j'essaye de tuer la migraine dans ma tête, ça bombarde. C'est pour les mecs bien, ceux qui traînent tard le soir. Pour les fraudeurs de train, pour les squatteurs de square. TSR Crew, hiver 2015. Couleur miroir, j'espère que je t'ai mis bien. Aïe, Nero Omri, Vincent Wassim. Mes frères, définitifs comme l'acide.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est toujours le Canu Info du lundi 10 février. Et on enchaîne avec le local et un certain Étienne Blanc qui a une super idée.
Oui, avant de passer à notre dossier, hein, je voulais quand même évoquer cette brillante idée de Étienne Blanc. Alors Étienne Blanc, c'est le candidat Les Républicains à la mairie de Lyon. Hein. Il n'est pas crédité de beaucoup de points dans les sondages, mais néanmoins il existe. Et il a eu cette brillante idée dans son programme d'équiper la police municipale lyonnaise d'un lanceur électronique de sangles en Kevlar pour saucissonner un individu en quelques secondes. Wow, et à distance.
Mais qu'est-ce donc ?
Et donc ça s'appelle un Bolavrap. C'est une société américaine, hein, qui s'appelle Wrap Technology qui développe donc ces magnifiques.
C'est sûr que c'est pas un kebab.
je vous invite. Alors bon, en réalité, hein, pour parler de cette mesure, il semble que ce soit pas vraiment envisageable que les policiers municipaux lyonnais soient équipés d'un tel instrument. Pas seulement parce qu'Étienne Blanc a quasiment aucune chance d'être élu, hein, mais
ça nous rassure.
mais aussi parce que ça coûte très très cher et qu'il y a déjà assez d'armes dites à létalité réduite. Hein, vous savez, ces armes qui vous font mourir qu'un tout petit peu, qui équipent les policiers. Mais je vous invite quand même à aller regarder des vidéos de cette charmante invention américaine, qui est une espèce de lasso électronique. C'est assez cocasse de le regarder et d'imaginer qu'on puisse être poursuivi par ce genre d'armes.
Enfin, cocasse. Flippant, non ? Bon.
Bah, les vidéos sont marrantes.
Comme vous voulez. Donc, on passe à l'interview ce jour, puisque nous avons invité une camarade de l'espace communal Guillotière.
Oui, on en parle régulièrement par ici. Hein. La Guillotière est un nouveau lieu d'expérimentation de, je cite, « management de centre-ville ». J'emprunte cette expression à Fouzia Bouzerda. Fouzia Bouzerda, elle est adjointe au maire de Lyon, chargée du commerce, de l'artisanat et du développement économique. Elle est également présidente du Citral. Elle a été un temps pressentie pour succéder à Gérard Collomb à la tête de la mairie pour La République En Marche. Et donc, au dernier conseil municipal, elle a présenté avec Jean-Yves Sécheresse une étude préalable à la diversification commerciale de la place Gabriel-Péry, donc la Guillotière. En fait, cette étude, hein, c'est plutôt tout simplement virer tous les snacks et vendeurs de téléphonie pour y implanter des commerces plus en adéquation avec les nouvelles populations du quartier, en tout cas celles que les élus aimeraient voir s'installer. Alors, cette nouvelle offensive, elle veut répondre à la volonté d'épuration du quartier, hein, qui est menée par les élus est largement relayée par des groupuscules d'habitants incarnés notamment par le collectif La Guillotière en colère. On vous invite d'ailleurs à ce sujet à lire le communiqué de La Guillotière n'est pas à vendre, qui devrait sortir d'ici peu. Alors, heureusement, face à cette entreprise de gentrification, il y a plein de gens qui s'organisent à La Guillotière. Dans ce cadre, on avait passé ici un petit reportage sur un nouveau lieu qui a ouvert l'espace communal de La Guillotière il y a 2 mois de cela. Aujourd'hui, le lieu est menacé à plusieurs égards. On a avec nous Marine, qui fait partie du collectif. Merci d'être ici.
Et ben, du coup, est-ce que tu peux nous faire une rapide présentation donc, de l'espace communal Guillotière, depuis quand ça existe et pourquoi ça a été ouvert, entre autres?
Alors du coup, l'espace communal de La Guillotière, il est né de la réquisition d'un bâtiment vide et inoccupé depuis 2013. Donc l'objectif principal était de loger des camarades en demande d'asile, toujours sans solution d'hébergement de la part des institutions. Et en deuxième objectif, on avait la volonté de lutter contre l'offensive dont notre camarade nous a fait part en introduction sur le quartier de La Guillotière. Et du coup, lutte initiée par le collectif La Guillotière n'est pas à vendre. Et notamment l'offensive sur l'îlot Mazagran, dans lequel est le bâtiment de l'ECG, du TI, un promoteur immobilier.
Alors, vas-y.
Non, je t'en prie.
Cette offensive, c'est-à-dire, elle correspond à quoi? Qu'est-ce que veut faire ce promoteur immobilier qui est évidemment soutenu par la municipalité, par la métropole?
Alors du coup, l'îlot Mazagran, c'est quoi? Du coup, c'est le Chat Perché, un atelier de réparation de vélos, un immeuble d'habitation, un garage automobile et du coup deux bâtiments qui étaient vides jusqu'à la réquisition en novembre. Et du coup, UTI veut racheter tout l'îlot pour en faire des logements qui ne seront probablement plus accessibles aux précaires et très précaires de La Guillotière.
Il faut savoir que cette offensive des promoteurs et des élus, elle est déjà l'objet d'une lutte depuis plusieurs années, notamment de la part du conseil de quartier de La Guillotière, mais aussi du collectif Habitons Mazagran, qui s'organise très spécifiquement sur cet îlot.
Oui, de toute façon, ce promoteur immobilier, hein, tu l'as dit, son seul objectif, c'est de faire fleurir des logements, des immeubles, comme on voit un peu partout dans La Guillotière, avec des loyers énormément plus cher. Alors, d'ailleurs, le propriétaire de l'espace communal du bâtiment occupé, donc par l'espace communal Guillotière, qui est-il et quelle est un peu l'histoire de ce lieu?
Alors du coup, le propriétaire actuel, du coup Henri Descours, héritier du patron de l'usine d'import-export de vins et spiritueux, usine Descours, du coup, qui se produisait du coup dans le bâtiment occupé, a signé depuis la mort de sa mère un compromis de vente avec ce fameux promoteur. Donc ce qui est assez étonnant, c'est que il attaque les squatteurs sous fond de il les attaque pour les expulser au plus vite, et cette expulsion est ordonnée parce qu'elle produirait un préjudice moral basé sur les motifs qu'ils seraient extrêmement choqués qu'à un bâtiment dans lequel ils ont grandi, qui ont énormément de valeur pour eux, donc une valeur sentimentale à leurs yeux, se ferait occupé. Alors, en sachant qu'il a signé un compromis de vente, ça nous paraît plutôt cocasse.
Pour détruire le dit bâtiment.
Voilà.
C'est un sentiment rétroactif, c'est pour ça.
ouais, puis il a la sensibilité à géométrie fort variable. Hein.
Ah, mais c'est de comprendre, t'es bourgeois et genre, il y a des squatteurs
Qui est dans ta propriété, franchement, je le
trop
comprends.
Dur. Ouais.
Alors, ce propriétaire, là, il a mené une offensive, évidemment, judiciaire. Il va y avoir un procès, donc, vendredi, 14 février. Il y a d'ailleurs un appel à venir se rassembler dès 9h du matin au tribunal d'instance, cette grande instance de Lyon, là, dans le 3e arrondissement. Quels sont ses arguments à ce propriétaire et à sa ligne de défense?
Bon, du coup, le premier argument, comme je l'ai déjà évoqué, du coup, c'était le préjudice moral lié à l'occupation de bâtiments ayant une valeur sentimentale à ses yeux. Mais c'est également, l'insalubrité et la dangerosité des lieux. Du coup, il s'inquiète pour notre santé.
C'est sympa.
C'est sympa, mais c'est également cocasse, puisqu'en 2013, sa mère, donc une femme âgée étant en mauvaise santé, dit-il, occupait encore ce bâtiment, donc pas très sympa pour sa maman.
Oui, puis c'est toujours cocasse ce genre d'argument quand on sait que l'autre alternative pour les demandeurs d'asile censés être hébergés par l'État, c'est la rue. Donc l'insalubrité de la rue face à celle d'un bâtiment, quel qu'il soit, c'est toujours particulièrement insupportable ce genre d'argument.
Alors, de manière générale, ce nouveau espace, cet espace communal de la Guillotière, il pose problème à la mairie, visiblement, puisque la mairie est en train de mener une offensive avec un arrêté municipal. Et d'ailleurs, cette offensive de la mairie, elle n'est pas que pour l'ECG, mais déjà, est-ce que tu peux nous détailler cette offensive contre l'espace communal?
Alors, du coup, depuis la semaine dernière, on s'est vu placarder sur notre porte un arrêté de la mairie, du coup, interdisant l'accès au public dans les lieux, puisqu'il ne serait pas aux normes ERP, donc normes permettant à un établissement d'accueillir du public. Donc il faut rappeler que ces normes sont extrêmement restrictives et que les travaux qu'elles nécessitent sont extrêmement coûteux. Et on rappelle aussi que la mairie a du mal à faire la différence entre accueillir du public et créer des solidarités dans un lieu. Voilà, parce que la vocation de l'ECG n'est pas d'accueillir du public dans des relations marchandes, etc., comme ils aimeraient bien transformer la Guillotière, mais bien de créer un espace de solidarité pour les gens du quartier, dans la précarité, l'extrême précarité, et les gens qui auraient envie de s'organiser contre cette offensive. Mais du coup, on a parlé déjà mon camarade, cet arrêté n'est pas anodin puisqu'il s'inscrit dans une offensive plus large sur le quartier de la Guillotière, donc lancée par la mairie et la métropole sur les lieux qui déplaisent et qui ne s'inscrivent pas dans les politiques de revalorisation tant attendues. Du coup, ces fameuses normes ERP sont donc demandées à de nombreux lieux dans le quartier, donc les snacks, kebabs et téléphonie, enfin lieu de téléphonie mobile. Du coup, c'est une stratégie efficace pour ordonner des fermetures administratives puisque les travaux sont très coûteux.
Et puis on sait que ce soit la métropole et la mairie, dans les logements dont ils sont propriétaires, ils sont bien moins rapides à s'appliquer à eux-mêmes des travaux qui sont pourtant nécessaires pour bien des locataires. Et c'est particulièrement le cas à la Guillotière où il y a toujours beaucoup de logements insalubres. À ça, de toute façon, ils préfèrent toujours répondre par revendre à des propriétaires privés qui détruiront tout pour construire, comme on le disait tout à l'heure, des immeubles un peu de standing qui correspondent mieux aux attentes des élus sur un quartier un peu trop populaire à leur goût, à mon avis.
En tout cas, nous espérons que cette offensive sera l'occasion de s'organiser pour lutter contre des expulsions futures. Voilà, et on espère que l'espace communal de la Guillotière pourra accueillir ces personnes.
On rappelle donc le procès vendredi matin, donc à partir de 9h du matin, le vendredi 14 février, au tribunal d'instance ou de grande instance. L'adresse est
rue 67 rue Servian.
Merci.
Donc on vous invite à venir à partir de 9h. L'audience devrait avoir lieu dans la matinée. Et vous pouvez aussi signer la pétition en ligne.
On a du coup lancé une pétition donc suite à cet arrêté municipal et qui fait un peu état de l'offensive dont nous avons parlé. Donc Voilà. Là et partagez-la.
Vous pouvez trouver tout ça sur Rébellion.
Merci pour cette interview. Et est-ce qu'on ferait pas un petit agenda de la lutte de la semaine ?
Et oui, car on le rappelle, la mobilisation n'est pas terminée. Donc, bon, y a aussi dans l'agenda militant d'autres choses. Hein, mais... Donc, demain, par exemple, il y a la projection de My Maxen and Me. C'est un film qui retrace le mouvement du 20 février au Maroc. Ça a lieu à l'Amicale du Futur, rue Sébastien Griff.
Ouais,
je ne me souviens jamais le numéro. Au 31, rue Sébastien Griff. Jeudi, manif. Ouais. Pardon, excusez-moi.
J'essaie bien ton agenda. Ouais, allez.
Oui, parce qu'il y a quand même. Non, mais parce que je m'étonnais. Il y a le 11 février, il y a aussi des actions de culture au point. C'est pour ça que qui sont prévues dans l'après-midi, mais je les ai pas sous les yeux. Donc je crois que c'est à partir de 15h, mais. C'est pas grave, parce que l'Assemblée Générale Lyonnaise s'est dotée d'un calendrier spécifique, mais qu'on n'a pas sous les yeux. Bref, jeudi, donc, manif au départ de l'Opéra à partir de 11h30, enfin, rassemblement à partir de 11h30, donc place Louis Padrel, et 13h, manifestation en direction de la préfecture. L'après-midi, à partir de 18h, Assemblée Générale Interprofessionnelle à la Bourse du Travail. Vendredi matin, on en parlait tout à l'heure, c'est le rassemblement de soutien à l'espace communal de la Guillotière devant le TGI. Il y a une manif à 14h de la santé. Le rendez-vous à 14h devant le Vinatier avec un passage devant l'hôpital Édouard Herriot à 15h pour une arrivée prévue à Bellecour à 16h30. Donc c'est une petite rando. Il y a une réunion à 18h30 à la Lutine. Il y a un collectif de précaires qui se monte et donc c'est rendez-vous à 18h30 au 91 rue Montesquieu dans le 7e pour s'organiser notamment face à la réforme de l'assurance chômage. Et c'est tout pour la semaine.
Non, t'as oublié vendredi matin devant le TGI. Ah non, c'est la semaine prochaine.
Je crois que. Non, c'est vendredi.
Je l'ai dit, mais redisons-le.
À 9h. Et de toute façon, figurez-vous qu'il y a un site super pour avoir toutes ces informations qui s'appelle Rébellion. Je crois qu'on ne vous l'avait jamais dit, hein, c'est ça. C'est la première fois, rébellion.info. Et n'hésitez pas à aller dessus. Il est 19h57 et on a fini notre émission, figurez-vous.
Dans les temps.
N'hésitez pas non plus à vous inscrire sur le fil des Telegram coordination de la grève qui vous permettra d'avoir un emploi du temps plus détaillé de la mobilisation contre la réforme des retraites que ce qu'on trouve sur Rebellion.
Voilà, donc on vous dit à tous les jours de la semaine et surtout à lundi prochain pour le Canu Info du lundi.
Been around the world.